Vous écoutez
RMC.
Vendredi 10 juillet,
l'info sur RMC.
Céline Kallmann est là pour les dernières informations. Il est 7h01, Céline, bonjour.
Bonjour Jean-Jacques, bonjour à tous. Fin de l'état d'urgence sanitaire à minuit, mais des mesures restrictives sont encore possibles à Laval, en Mayenne. Pas de reconfinement, mais l'annulation des festivités jusqu'à fin juillet. Olivier Véran, ministre de la Santé, est votre invité Jean-Jacques à 8h30 sur RMC et BFM TV. Finalement, ce sera comme avant, Notre-Dame restaurée à l'identique, l'Élysée a tranché. Il est soupçonné d'abus sexuels sur plus de 300 mineurs, un Français de 65 ans arrêté en Indonésie. Il risque la peine de mort. Bienvenue sur RMC. À minuit ce soir, la France en aura fini avec l'état d'urgence sanitaire, excepté à Mayotte et en Guyane, où le Covid-19 circule toujours de manière active. La trêve hivernale pour les expulsions de locataires va donc prendre fin. Idem du côté des fournisseurs d'énergie, l'accès au gaz, à l'électricité pourrait être coupé pour les mauvais payeurs. En Mayenne, et si les mesures de sécurité sanitaire étaient renforcées, les cas positifs ont été multipliés par 4 ces deux dernières semaines. Annulation des festivités du 14 juillet à Laval, la population commence à s'inquiéter. Reportage de Florian Chevalet et Martin Bourdin.
Aux terrasses des cafés, les masques sont posés sur les tables, les sourires bien visibles, mais la recrudescence des cas positifs dans le département s'invite forcément dans les discussions.
On vient de retrouver les amis, un peu tout le monde, de découvrir d'autres choses, donc on n'a pas forcément envie de retourner tout seul chez soi non plus.
La crainte de voir les autorités prendre des mesures plus strictes, Angelo la partage, surtout que sa femme doit accoucher dans les prochains jours.
Ce qui m'inquiète, c'est de ne pas pouvoir présenter notre enfant quand il arrivera à notre famille.
Le problème, c'est que certains semblent avoir oublié la crise sanitaire.
Là, il y a du relâchement.
Elodie le voit au quotidien dans sa boutique du centre-ville.
Je suis obligée de reprendre les clients en leur disant par contre le masque est obligatoire, est-ce possible de le mettre ? Des fois, y a des clients qui se permettent des choses qu'ils ne devraient pas.
Alors dans ce contexte, annuler les festivités du 14 juillet, repousser les animations de Laval-la-Plage, rendre obligatoire le port du masque sur les marchés étaient des mesures de bon sens, explique le maire de la ville, Florian Berco.
C'est pas facile, on a l'impression de reculer alors qu'on est en période de déconfinement. Il faut à la fois rassurer, c'est des foyers qui sont assez concentrés, mais il faut aussi rappeler qu'il faut être vigilant. C'est justement par prudence que je prends ces mesures-là pour éviter le scénario noir.
Mais il prévient, le dispositif sera amené à évoluer si la préfecture et l'agence régionale de santé l'estiment nécessaire.
Le coronavirus qui continue de se répandre en Amérique latine, la présidente bolivienne et le numéro 2 vénézuélien ont annoncé être positifs. Aux États-Unis, 1 000 000 de décès ces dernières 24 heures et 65 000 nouveaux cas. Notez qu'Olivier Véran, le ministre de la Santé, sera l'invité de Jean-Jacques Bourdin à 8h30 sur RMC et BFM TV. Emmanuel Macron a tranché la flèche de la cathédrale de Notre-Dame sera reconstruite à l'identique. Le chef de l'État a fait savoir hier soir qu'il entérinait l'option d'une restauration plus proche de l'état dans lequel se trouvait la cathédrale avant l'incendie. C'était le 15 avril 2019. Une décision saluée par Didier Rickner. Il est historien de l'art.
C'est une excellente décision prise par le chef de l'État. Personne n'avait compris dans le domaine du patrimoine comment on pouvait imaginer faire un concours architectural sur Notre-Dame de Paris. C'était aberrant parce que ce monument est protégé monument historique et qu'en plus une partie de la flèche existe encore puisque les sculptures ont été déposées très peu de temps avant l'incendie. Donc absolument tout plaidait pour une restauration à l'identique, d'autant que tous les plans sont connus, que tout a été mesuré, millimétré. On sait exactement comment cette flèche était faite. Donc là, pour une fois, voilà une vraie bonne décision. Il faut restaurer Notre-Dame à l'identique et ça se le rend.
Et je précise qu'Emmanuel Macron prévoit toujours une reconstruction rapide, 5 ans avec une réouverture en 2024. Jean Castex se rend à Dijon ce matin avec Gérald Darmanin. Une semaine après sa nomination, le Premier ministre va rencontrer les forces de sécurité. Visite aussi prévue dans le quartier des Grésilles, secoué par des affrontements il y a un mois. Deux personnes ont d'ailleurs été mises en examen hier soir pour violence. Jean Castex qui poursuivra en fin de journée ses entretiens avec les partenaires sociaux. Hier, les premiers échanges ont débouché sur de premiers désaccord. Pierrick Bonneau.
Une heure d'échange pour permettre d'abord à chaque organisation de faire connaissance avec le nouveau Premier ministre, Geoffroy Roux de Bézieux, président du MEDEF.
On peut saluer un ton très direct, très franc, presque rugbyman dans le fait de passer un peu les préliminaires, on s'est dit les choses.
Pour une fois, les partenaires sociaux sont tous d'accord sur les deux priorités, l'emploi et la relance, et ne veulent plus entendre parler de la réforme des retraites, en tout cas, pas pour l'instant. Yves Verrier, patron de Force Ouvrière.
Je lui ai redit que, un, nous n'étions pas d'accord avec l'idée
du système universel de retraite par points. Et deux, que ce dossier, il fallait l'écarter.
Le Premier ministre écoute, mais ne répond pas. Le leader de la CGT, Philippe Martinez, ressort méfiant.
On a tellement été aguerris aux problèmes de confiance et des belles paroles. C'est quand même aux actes et aux propositions qui seront faites par ce gouvernement et par le Premier ministre qu'on jugera.
Et pour donner le rythme, la CGT appelait hier soir à une journée de grève et de manifestation le 17 septembre prochain.
Et de nouvelles manifestations sont prévues un peu partout en France aujourd'hui contre la nomination à l'intérieur de Gérald Darmanin. Il est visé par une plainte pour viol relancée en cassation après un non-lieu. RMC, 7h06, il est soupçonné d'abus sexuels sur plus de 300 mineurs. Un retraité français de 65 ans a été arrêté fin juin à Jakarta en Indonésie. Il risque une lourde peine de prison, voire la peine de mort. Il a été arrêté dans un hôtel de la capitale indonésienne avec deux jeunes filles mineures dans sa chambre. Thomas Chupin.
Les autorités indonésiennes publiaient hier une photo de ce retraité de 65 ans entouré de deux policiers, la tête baissée, le masque sur la bouche et la tenue orange des détenus sur place. Ce Français originaire de la région parisienne risque aujourd'hui la peine de mort, soupçonné d'abus sexuels sur plus de 300 mineurs. Cela fait des années manifestement qu'il sévissait à Jakarta, la capitale. Des allers-retours France-Indonésie ont été enregistrés ces 5 dernières années. Des visites où ce Français s'attaquait à des jeunes filles âgées de 10 à 17 ans. Lorsqu'il a été arrêté, les policiers ont découvert un studio dans sa chambre d'hôtel. Il allait chercher des jeunes filles au hasard, leur proposant de devenir des modèles. Une fois dans la chambre, il leur proposait entre 10 et 60 euros pour une relation sexuelle. Si elles refusaient, elles étaient battues. Fin juin, quand il est pris sur le fait, il est entouré de deux jeunes filles et les policiers ont découvert sur son ordinateur des centaines de photos et de vidéos de ce qu'il faisait subir à ses victimes.
Le feuilleton se poursuit à Marseille avec cette question latente. L'OM va-t-il prochainement changer de propriétaire? Le club intéresse, vous le savez, un businessman franco-tunisien, Mohamed Aïchi Ajroudi. Il a accorde aujourd'hui un entretien au Figaro où il précise encore un peu plus son projet de rachat avec des ambitions démesurées. Lucas Vinois.
Cristiano Ronaldo sous le maillot de l'OM avec Zinedine Zidane comme entraîneur du club phocéen, tout cela paraît impossible, mais pas pour Mohamed Aïchi Ajroudi. L'homme d'affaires franco-tunisien ne mâche pas ses mots et surtout ne cache pas ses ambitions élevées, notamment en matière de transfert, sans omettre que ceci relèverait de la fonction de président, assurée alors par Mourad Boudjelal, l'ancien président du Racing Club Toulon, vainqueur du top 14 et de 3 Coupes d'Europe. Des déclarations fracassantes qui ont pour but notamment de draguer les supporters marseillais, très importants dans la vie du club. Sportivement, l'Olympique de Marseille aurait pour but de détrôner le Paris Saint-Germain sur la scène nationale et à l'échelle européenne de remporter la Ligue des Champions. Problème, 3 ans et demi après le rachat du club, Franck McCourt a déclaré il y a une semaine ne pas être vendeur.
Oui, rugby club toulonnais, hein, pas le Racing. Je sens qu'à Toulon, tout le monde se lève. Hein. Oui.
RCT rugby club toulonnais, il y a le exactement. Racing club Narbonne.
Exactement.
Pas confondre les deux.
Oui.
Je peux finir mon journal.
Oui, allez-y, Céline.
Bon, il y aura beaucoup de monde demain sur les routes. Ce sera rouge partout pour les départs. Rouge aujourd'hui seulement en Ile-de-France et orange ailleurs. Vous êtes nombreux à avoir décidé de passer vos vacances en France. Covid oblige. Certains départements français ont décidé de mettre les moyens pour attirer le touriste. C'est le cas des Deux-Sèvres. 500 000 euros, la campagne de communication. Anaïs Denet.
Choisir les Deux-Sèvres comme destination, c'est forcément débuter par un tour en barque sur la Venise verte. Manuel est le gérant d'un embarcadère.
Nous sommes en plein cœur du Marais Poitevin. C'est que de la nature, puisque c'est un endroit absolument merveilleux. Il n'y a absolument aucune construction. Au niveau de la faune, il va y avoir des chevreuils qui vont parfois passer devant nous, des ragondins qui plongeront au moment du passage de la barque. Enfin, c'est un endroit hors du temps.
Fuir la foule et privilégier les balades en extérieur, les atouts principaux du département qui a dépensé 500 000 euros en spot publicitaire. Coralie Desnoux est en charge du tourisme.
On a une carte à jouer sur le naturellement vert. C'est prendre le temps d'une balade en famille. Et cette période a été cruciale pour cette prise en compte du temps.
Relancer le tourisme avec un budget inédit, c'est aussi se donner une chance de redresser l'économie du département.
On se doit d'être auprès des acteurs du tourisme. Le taux de remplissage des hébergements est vraiment positif. Mais je rassure tout le monde, il reste encore de la place.
En septembre, les Deux-Sèvres publieront des affiches dans le métro parisien pour donner envie aux acteurs économique de quitter la capitale.
Le Marais Poitevin, c'est magnifique. Allez-y, Céline, allez-y.
J'ai
Anaïs, attention, il y a des ragondins.
Mais j'ai entendu,
vous savez que l'idée qu'on parle de rats, de souris,
ah oui,
de ragondins. Elle n'est plus là. Bon, toute l'équipe est toujours là avec nous. Nous allons beaucoup parler de l'équipe ce matin parce que je veux rendre hommage évidemment à toutes celles et ceux qui travaillent avec moi. Je veux rendre hommage aussi à toutes celles et ceux qui sont avec nous au quotidien depuis tant d'années, avec qui je partage mes matinées, des matinées qui commencent à 4h15 parce qu'on se lève tôt quand on fait de la radio le matin, tous les matins. 4h15, c'est fini. Pour moi, je me lèverai un petit peu plus tard, mais c'est bien. Et vous avez des questions à poser sur le journalisme, le métier, allez-y. 3216, rmc.fr. 3216, c'est notre lien. Vous êtes avec nous, nous sommes avec vous. Et je vais vous prendre Alexandre, par exemple, qui est dans le Var. Ça va, Alexandre ?
Jean-Jacques, comment allez-vous ?
Ben, ça va très bien, et vous ? Le rosé à Cogolin, tout va bien ?
Mais
à la
oui,
garde freinée
très... Bien sûr, pas de la tour Grimaud, tout va bien Jean-Jacques.
Pas de la tour Grimaud.
Oui. Vous vous rappelez où vous étiez il y a 12 ans Jean-Jacques ?
Oui.
Il y a 12 ans, ma fille elle venait de naître, je sortais de la maternité, qui était là pour m'attendre ? Jean-Jacques Bourdin. Incroyable non Jean-Jacques ?
Oui c'est vrai.
Incroyable,
c'était
génial.
C'est vrai génial. Alexandre, oui génial.
Et oui. Et
Alexandre m'a fait voir le golfe de Saint-Tropez autrement.
Ah oui.
On est monté sur une colline. C'était magnifique. De l'autre côté, c'était magnifique.
Et ça, c'est vrai. Eh ben, d'un côté, on voit mon village du Pont de la Tour, et de l'autre, tout le golfe de Saint-Tropez. C'est vrai que ça vous avait plu.
Ça m'avait plu. Avec l'ami Patrice Lafont. Avec l'ami Patrice Lafont.
Absolument.
Mon vieil ami. Oui.
Et vous savez, tout à l'heure,
vieil ami, il va pas être content, il a 10 ans de plus que moi.
Vous saviez, Jean-Jacques, tout à l'heure, vous parliez que vous étiez engagé pour les gaz de schiste, mais à un autre sujet, vous étiez engagé. Vous vous souvenez, en 2009, pour le coupage du rosé, quand l'Europe, ils avaient voulu mélanger le rouge et le blanc.
Ça, c'était encore une idée, tiens. Entre le gaz de schiste et la volonté de couper le rosé. Non, mais c'était n'importe quoi.
Et vous savez, comme je vous remercie encore une fois de cet engagement, ça a pesé, hein, quand même.
Donc, je sais que ça a pesé.
J'étais votre reporter sur le terrain, on faisait déguster du rosé au carrefour de Gassin à la Fousse. Là, on arrêtait toutes les voitures et on avait des retours. Mais c'est super, il y a Jean-Jacques qui vous écoute, qui parle de vous, c'était super. Ça, c'était génial.
Ouais.
Alors, vous imaginez pas, Jean-Jacques, quand même, je vous écoute depuis que j'ai 19 ans, quand même, et j'en ai 37 aujourd'hui. C'est assez, c'est assez émouvant, quand même, Jean-Jacques.
C'était émouvant.
Surtout de la façon dont je vous ai écouté. Quand j'ai repris l'exploitation de mes grands-parents en 2002, il y avait un vieux C15 sur l'exploitation. Et là-dedans, il y avait une radio qui captait que les grandes ondes. Donc moi, je vous ai écouté sur 216 AM.
Ouais.
Parce que chez moi, ça passe pas très bien. Oui, mais c'est génial. Et oui, mais Jean-Jacques, le 216 AM, il passe de partout en France.
Ouais,
et maintenant,
c'est
fini. Les grandes ondes ne passent plus. Et chez moi, c'est vrai que j'ai un petit peu de mal à vous capter. Mais bon, j'ai toujours des endroits sur l'exploitation.
C'était bien, les grandes ondes, d'ailleurs. Mais effectivement, ça permettait d'écouter la radio partout.
Exactement.
Et partout. Mais pour. Par souci d'économie, on a arrêté les grandes ondes, ouais.
Et voilà, c'est sûr. Et en tout cas, je vous remercie, vous avez accompagné chaque moment de ma vie. J'oublierai jamais cette phrase, vous m'avez dit, Alexandre, j'étais tout jeune conseiller municipal à l'époque, vous m'avez dit, si tu fais de la politique un jour, surtout l'esprit partisan, t'oublie tout de suite.
Oui.
Parce qu'une fois que tu es partisan, t'es plus du tout libre.
Oui, c'est alors ça me fait plaisir d'entendre ça, Alexandre.
Ah oui, Jean-Jacques, je n'ai jamais oublié, vous savez.
Jamais oublié ça. Merci, Alexandre. Merci.
Et je vous en prie.
Et à très bientôt. Si je passe dans le coin, évidemment, j'appelle.
Et n'oubliez pas, vous me devez une partie de pétanque, la dernière fois, vous avez
Bon, d'accord. Ok.
Mon épouse vous fera un magnifique aioli et on boira du pastis de
l'herbe. Aioli. L'aioli, j'adore ça.
Je sais.
Merci.
Vous attends, hein.
Merci,
je vous
Alexandre.
Je vous attends à très bientôt, Jean-Jacques.
Salut, bonjour, Alexandre. Quoi. Merci. Si je prenais Ludovic, tiens, qui est à Beaucaire. Bonjour, Ludovic.
Ah, Jean-Jacques, bonjour.
Beaucaire, c'est dans le Gard. Mais Ludovic, c'est la première fois que vous appelez, non?
Ah non,
Ludovic, mais...
Jean-Jacques, tu m'as fait...
Dis-moi.
Gagner une machine à café.
Ah, je t'ai fait gagner une... Dans le Gard, évidemment.
Dans le Gard.
Il se moque de moi à chaque fois qu'un gardois gagne une machine à café. Il se moquait de moi.
Elle est toujours là.
Bon, elle marche encore ou...
Elle marche encore, elle fonctionne encore, tout à fait.
Eh ben, génial, Ludo. Ludo, on te surnomme Ludo.
C'est Ludo, oui, tout à fait. C'est une tristesse ce matin, quand même.
C'est vrai? Non.
Ah ben oui, c'est une tristesse. Et je ne vais plus avoir ma voix atypique qui m'accompagne sur la route le matin.
Ouais, Ludo, mais bon, tu l'auras à 8h30, ta voix.
Oui, j'espère bien. Et puis je voulais te dire aussi,
voix.
Si tu passes un jour du côté de Beaucaire, il faudra s'arrêter à la maison.
Pour boire un bon jus de pomme de Normandie.
Ah, tu... parce que, moi, oui, parce que j'ai déjà le pastis qui m'attend dans le Var. Si je bois un verre de rouge à Beaucaire, je serais pas bien hein, pour remonter sur le Vigan.
Du bon calva de Normandie.
Bon, d'accord. Allez, voilà. Dites-moi. Bon, Ludo.
Merci beaucoup.
Merci à toi. Non, à travers toi. Non, merci à toutes celles et ceux qui m'accompagnent depuis tant d'années sur RTL et RMC. Bien, vous savez, tiens, je voulais juste dire un mot. Quand j'ai commencé, c'est pas la première fois que je le dis, mais quand j'ai commencé à donner la parole aux auditeurs, c'était à RTL, les auditeurs ont la parole et dans la rédaction, tout le monde me regardait en disant, c'était scandaleux à l'époque de donner la parole à l'auditeur. Vous vous rendez compte, les journalistes avaient capté la parole et ne risquaient pas de l'abandonner à quiconque. Mais on a donné la parole. Et bravo Raymond Castan qui a pris cette initiative. On a donné la parole aux auditeurs. Et dans la rédaction, on me disait vous allez donner la parole à tous les extrémistes de tous bords, de gauche, de droite. Oui, au début, il y avait beaucoup. Mais après, petit à petit, les uns et les autres sont arrivés. Chacun avec ses idées, avec ses remarques, avec ses propositions. Chacun est venu apporter un peu de je veux dire, pierre à l'édifice. Non, je déteste parce que ça, c'est un cliché. Non, il est 7h17.
J'ai un petit Anaïs. Message à vous faire écouter.
Ah bon ?
Si je vous dis Nanjing.
Ah ben Nanjing. Notre auditeur filet, Jean-Pierre.
Il a un message pour vous, écoutez-le.
Oui.
Bonjour Jean-Jacques, un petit bonjour depuis Nanjing en Chine. Vous êtes le bienvenu quand vous voulez. Si vous êtes de passage, n'hésitez pas. Il y a tellement d'anecdotes qu'on pourrait raconter sur votre émission, les matinales, tellement ça fait longtemps que vous êtes sur le PAF. J'ai pas forcément d'anecdotes particulières. Tout ce que je voulais vous dire, c'est continuer comme vous êtes, franc, droit dans vos bottes, et vous lâchez jamais rien. C'est mieux comme vous l'avez été devant tous ces politiques qui ne veulent jamais répondre. Et ma petite fille avait un petit message pour vous. Au revoir.
Dis. Au revoir.
Au revoir et bonne continuation.
Elle est mignonne,
ah oui,
elle est adorable. Et Jean-Pierre, merci Jean-Pierre.
C'était notre envoyé spécial.
Pendant le Covid-19, ouais. Le coronavirus. On va prendre Ludovic. Ludovic, donc... Ah non, mais Ludovic, je viens de l'avoir. Ginou, qui est dans les Hautes-Pyrénées. Bonjour Ginou.
Oui, bonjour Jean-Jacques.
Ginou.
De vous voir à la télé, là.
C'est vrai. Ah oui, parce que... Attendez, Ginou. Attendez, Ginou, je vais vous donner la parole simplement pour la télé. Oui, lorsqu'on a... d'abord, on a pris RMC au tout début, qui ne représentait rien du tout. On a monté RMC. Grâce au succès d'RMC, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, on a créé BFM TV. Grâce au succès de BFM TV, ensuite, il y a eu d'autres chaînes. Et RMC Découverte. Et RMC Découverte, on est parti là aussi de zéro. Et on était à 10 points avant-hier. C'est 10 points de part d'audience, troisième chaîne de France. C'est un succès formidable, encore une fois, grâce à vous. Hein, grâce à vous, et vous êtes de plus en plus nombreux ou nombreuses à regarder maintenant la radio. Je le dis, à regarder la radio, parce qu'on fait de la radio avant tout, et elle est filmée. Ginou, allez-y, Ginou.
Alors, vous m'avez accompagnée pendant 10 ans sur mon lieu de travail où j'étais étiquetteuse sur les emballages de colle, pardon, parce que je ne parle pas facilement, j'ai été opérée d'une dent hier. Voilà. Alors, donc, vous m'avez accompagnée pendant 10 ans, vous m'avez accompagnée dans la maladie, dans mes épreuves de la vie. Vous êtes formidable, vous et toutes vos équipes, Charles Magna, Apolline de Malherbe, vous rapassera, je suis sûre, très bien. Christophe Jacomuzzi, j'ai vu aussi. Mathieu Béliard, enfin voilà, je connais toute l'équipe. Je vous adore et merci pour vos engagements, pour tout ce que vous avez fait. Je vous souhaite bon vent, Jean-Jacques.
Merci.
Et vous allez nous manquer énormément.
Ben, merci, Ginou. Je sens l'émotion, hein,
oui,
Ginou.
Très ému. Excusez-moi.
Vous n'êtes pas la seule, Ginou. Merci. Excusez-moi. Il est 7h20. Allez.
Au revoir, Jean-Jacques.
Au revoir, Ginou. Je vous embrasse.
RMC.
Dupin quotidien.
Eh oui, c'est Marie Dupin. Il est 7h23, Marie.
Eh oui, je vous ai préparé une petite chronique surprise ce matin, Jean-Jacques. Vous savez que j'aime beaucoup les chiffres. Donc, j'ai essayé de résumer votre carrière radio en chiffres. Et ça donne un peu le vertige, hein, puisqu'on est sur des milliers d'heures de radio depuis vos débuts au service des sports de RTL en 76. Vous avez à votre actif plus de 20 000 heures d'antenne en direct, 6 Tours de France, une Coupe du Monde de football, les Jeux. Vous me dites si je me trompe. Les Jeux Olympiques de Moscou en 1980, 6 tournois des 6 nations, 30 ans de matinale, soit, j'ai fait un petit calcul, 6450 réveils à des heures indécentes, 30 000 invités. Respect à tous ceux, Muriel, Fabrice, Déborah, Tom, qui les ont calés, décalés, annulés, parfois au dernier moment. Sans oublier, évidemment, le rendez-vous politique de BFM TV RMC, le 8-35, comme on l'appelle, 3 000 interviews déjà, et encore beaucoup d'autres à venir. Voilà pour les chiffres officiels, mais 19 ans de matinale sur RMC, c'est aussi 19 350 cafés précautionneusement transvasés d'un gobelet en plastique dans votre mug du matin, des milliers d'heures de conférences de rédaction sur la matinale du lendemain, impossible de vous forcer la main si un sujet ne vous plaît pas, je suis bien placée pour le savoir, la main et le poing qui tape sur la table du studio, là aussi à raison de 3 fois en moyenne chaque matin, j'ai pas compté, ça fait un peu bizarre au début et puis on s'habitue. Et puis comme dirait Charles, Jean-Jacques, c'est aussi des centaines de journalistes formés et déformés à vos côtés. Une équipe, Isabelle, qui va continuer de travailler avec vous. Quelle chance elle a. Anne, bien sûr, si loyale et estimable, ce sont vos mots. Mathieu, Anaïs, Quentin, Géraldine, Nicolas Poincaré, le petit dernier, François et Claudine aux manettes, Céline, Julien, Anne-Sophie et Benjamin qui mettent en valeur le travail de la rédaction dans leurs journaux. La rédaction, évidemment, sans oublier la très précieuse Catherine au standard. Quant à moi, ça fera bientôt 10 ans que je suis arrivée à RMC, que je travaille à vos côtés. Impossible de faire le compte de tout ce que vous m'avez appris. Mais une chose est sûre, c'est que vous allez beaucoup me manquer.
Eh ben, Marie, merci.
Mais de rien.
Et vous l'entendez, Jean-Jacques Bourdin, Marie Dupin, c'est un sacré duo. Depuis des années, tous les matins, Jean-Jacques, on a pris l'habitude d'écouter Marie attentivement pour avoir des bons conseils conso. Mais parfois, il faut le dire, on est un peu dissipé. Ça arrive que ça perturbe Marie. Comme le jour où Marie a essayé, je dis bien essayé, de nous apprendre à nous habiller en hiver.
Oui. Des moufles de préférence.
Il vaut mieux des gants.
Bah oui, parce que dans les moufles, les doigts se gardent chaud les uns les autres. Donc on a beaucoup plus chaud aux doigts dans les moufles que dans les gants.
Bon. Et puis, 3 couches de vêtements, pas une de moins, mais surtout pas une de plus. Marie, non mais c'est... Ça c'est...
Oui. Il faut vraiment perdre le réflexe d'enfiler des couches et des couches.
Bon.
Parce que si on met ça, je vais y arriver. Aidez-moi.
Non.
Il faut bien choisir ses vêtements. La base, c'est de choisir des soupules thermiques qui sont ajustées près du corps, mais qui ne vous servent pas trop non plus.
Il faut bien choisir la première couche et ensuite une bonne couche intermédiaire et puis on termine avec la dernière couche, c'est ça? Non, c'est ça Marie. Bon, et puis dans tous les cas, on évite surtout des vêtements en coton. Non, c'est vrai, c'est pas bon le coton.
Mais
quand
oui,
il fait froid.
Ça empêche de respirer, de transpirer. Ouais. Et donc si la poêle est humide, et ben vous avez un rhume après.
On a un rhume après. Oui. Ça, c'est mauvais, le coton.
Non,
soyons sérieux.
Dernier
conseil pour les chaussures.
Les chaussures, on ne les choisit pas trop humides, hein, parce que sinon, si c'est trop serré, ça comprime le pied.
Trop humide, c'est ça. Bon, les chaussures.
On fait tous l'erreur de choisir des chaussures humides, c'est vrai.
Franchement, c'est chiant, parce que c'était super intéressant, j'avais plein de trucs à dire, et du coup, personne ne saura comment se protéger du froid à cause de vous.
Celle-là, c'était une chronique d'anthologie.
Du grand Dupin.
Là, c'est du grand Marie Dupin. Franchement, alors, pour l'été, vous avez quelque chose de Marie? Non, mais comme ça, non.
Tongue ou sandales, Marie?
Oui. Tongue ou sandales, bon. Merci.
Vous m'avez bien mis en boîte.
Merci, Marie, pour toutes ces matinées.
Merci
à vous. Il est quelle heure? Il est 7h28, je suis perdu, je ne sais pas où j'en suis. Qu'est-ce qu'on fait, là?
Ah oui, Gilles. Gilles est dans l'Isère. Bonjour, Gilles.
Bonjour Jean-Jacques, bonjour à toute l'équipe.
Merci Gilles.
Il n'y a pas de quoi, c'est moi qui vous remercie. Alors, je voulais faire une vidéo, puis alors moi et la vidéo, ça fait deux choses.
Vous êtes comme moi, on est deux alors.
J'aime bien parler aux gens directs.
Oui.
Je ne sais pas trop par où commencer, comme je vous ai dit l'autre jour, moi ça va faire plus de 15 ans que je vous écoute. Vous avez fait comme avait fait le grand Max, je vous en avais parlé, donner la parole aux gens, et ça... Ça, franchement, c'est bien. assez bien et ça fait énormément de bien. Et bon, je n'ai pas toujours été d'accord avec vous, je vous l'ai déjà dit.
Je dis toujours, même moi, je ne suis pas d'accord avec moi parfois.
C'est la... ouais, moi aussi, des fois, après la buvette, je ne suis plus d'accord avec moi.
Ça arrive.
Au fait, monsieur Jean-Jacques, vous êtes Philippe Suchot ou Philippe Quintet?
J'adore les deux. Quintet. Quintet est capable de tout faire. Moi, je suis plutôt milieu. Comme Quintet, finalement. Parce que c'est là où il excelle, Quintet. Moi, et Suchot, c'est un tireur exceptionnel.
Hein. Ils font toujours halluciner. Les petits jeunes qui arrivent, ils sont extraordinaires.
C'est vrai. Merci, Gilles.
Et je voulais vous dire juste une chose.
Allez.
Comme disait Georges Pernoud, bon vent.
Oui.
Hein, à vous. Merci encore. Et je voulais vous remercier aussi une chose que vous avez dit il n'y a pas longtemps. Et moi, je suis de tout mon soutien avec toute l'équipe, parce que le daron a fait des affaires, c'est le petit personnel qui dérouille. Et donc, tout mon soutien à toute l'équipe, et continue comme ça. Et Jean-Jacques, bon vent, et encore merci.
Bien, merci. Et qui est le baron? Patrick Drahi, non? J'avais bien, pas bien compris. Il est 7h30, merci d'être avec nous. Julien Coudreau est là pour les dernières informations. Il est 7h31. Julien, bonjour.
Bonjour Jean-Jacques, bonjour à tous. Il avait promis de la reconstruire plus belle encore, 15 mois après l'incendie de Notre-Dame de Paris. Emmanuel Macron est finalement favorable à une reconstruction à l'identique de la cathédrale. La fin de l'état d'urgence sanitaire en France et des mesures exceptionnelles prises face à l'épidémie de coronavirus ont fait le point sur les changements qui entrent en vigueur dans un instant. Et puis, une cartouche, pas plus. Le gouvernement veut limiter les achats de tabac transfrontaliers. Les buralistes sont ravis. Les fumeurs, beaucoup moins, vous l'entendrez. Le débat est né quasiment au lendemain de l'incendie. Faut-il reconstruire, oui ou non, Notre-Dame de Paris comme elle était avant le sinistre ou bien innover ? Débat finalement tranché hier soir par Emmanuel Macron. Le chef de l'État a décidé de ne pas retenir l'idée un temps envisagée d'un geste architectural contemporain. Et le chef de l'État se dit désormais favorable à une reconstruction à l'identique, Anne-Sophie Balbir.
La flèche ressemblera en tout point à celle que Eugène Viollet-le-Duc avait érigée en 1859. Un choix qui satisfait Patrick Chauvet, le recteur de Notre-Dame de Paris.
J'ai toujours dit que je souhaitais qu'il n'y ait pas quelque chose de farfelu sur la cathédrale. Parce qu'il faut respecter ce lieu, qui est un lieu cultuel avant tout. Je voulais aussi que ça fasse une unité dans l'ensemble de l'édifice.
La flèche sera donc reconstruite dans le respect des matériaux d'origine. Il y aura une toiture en plomb. Rebâtir le joyau gothique à l'identique, c'était le meilleur moyen de gagner du temps, selon Catherine Tricot, architecte urbaniste.
Ça évite d'avoir un concours international et on peut aller beaucoup plus vite. On prenait au moins un an pour mettre au point le cahier des charges, faire la consultation internationale, désigner le jury, etc. Tandis que là, finalement, le projet il est déjà là.
La nouvelle charpente, quant à elle, sera bien en bois. Emmanuel Macron on prévoit toujours une reconstruction de la cathédrale en 5 ans, avec une réouverture en 2024.
Et le geste contemporain pourrait au final concerner les abords de la cathédrale, puisque l'Élysée dit souhaiter travailler à leur réaménagement avec la ville de Paris. Deux personnes supplémentaires mises en examen et placées en détention provisoire dans l'enquête sur les violences urbaines entre communautés tchétchènes et maghrébines à Dijon. Le Premier ministre Jean Castex et son ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin rencontrent dans une heure les policiers au commissariat de la ville avant de se rendre dans le quartier des Grésilles touché par ces affrontements le mois dernier. Gérald Darmanin et Éric Dupond-Moretti, toujours dans le viseur des féministes, des rassemblements sont annoncés dans plusieurs villes de France aujourd'hui contre leur nomination au ministère de l'Intérieur et à la Justice, à Paris, Marseille, Grenoble ou encore à Rennes. Il est 7h34 sur RMC. Une nouvelle rallonge pour les secteurs en difficulté face à la crise du coronavirus. Les députés ont adopté hier soir un troisième budget d'urgence à l'Assemblée. Il prévoit 45 milliards d'euros supplémentaires pour le tourisme, l'automobile ou encore l'aéronautique. Un amendement limite aussi la quantité de tabac qu'il est possible de ramener en France depuis les pays frontaliers. 4 cartouches de cigarettes jusqu'à présent, ce sera bientôt une, ce qui ne fait évidemment pas le bonheur des fumeurs. Illustration à la frontière belge, Rémi Desremaux avec Marion Fournet.
Chez ces consommatrices de la région lilloise, habituées à se fournir en Belgique, l'amendement a du mal à passer.
Je trouve ça aberrant, même dégueulasse, parce que c'est encore les petits citoyens, les petits salaires, les petits trucs qui vont encore subir.
Quand vous pensez qu'une cartouche de cigarette en France, je paye 94 euros, ici en Belgique, 68. Vous voyez la différence qu'il y a ?
Une différence qui irrite les buralistes français, eux qui avaient retrouvé le sourire pendant le confinement, quand les habitants de la région ne pouvaient plus se déplacer hors de l'Hexagone. Christophe Carpentier, président de la Fédération des buralistes lillois.
Il y a certains de mes collègues, de mes confrères, qui ont multiplié par 5 leur chiffre tabac, donc c'est quand même très significatif. Et là, on redescend tout doucement et c'est reparti comme avant, quoi, tout simplement.
Évidemment, lui se réjouit de la restriction des achats de tabac à l'étranger.
Je comprends le français qui va en Belgique, au Luxembourg, parce que bon, quand vous payez deux fois moins cher votre paquet de cigarettes, je le comprends. Ce qui est sûr, c'est que pour nous, c'est pas logique, quoi. Donc à partir de ce moment-là, je pense que c'est une bonne chose.
Adopté hier soir à l'Assemblée nationale, le troisième budget d'urgence qui contient un amendement sur le tabac doit désormais être examiné par le Sénat.
Ce vendredi, c'est aussi la fin de l'état d'urgence sanitaire et donc des mesures exceptionnelles qui l'accompagnent, mises en place dans le cadre de l'épidémie de coronavirus. Alors quel changement concrètement ? On fait le point avec vous, Benjamin Smadja.
D'abord, la fin de la trêve hivernale et donc la possibilité pour les propriétaires de procéder à nouveau à des expulsions de locataires. C'est également le retour du délai de carence, 3 jours pour les salariés du privé, 1 jour pour la fonction publique, sauf si vous êtes atteint par le coronavirus. Les prix du gel hydroalcoolique et des masques ne seront plus plafonnés. Le port du masque qui restera d'ailleurs obligatoire au moins jusqu'au mois de novembre dans les transports en commun. Le gouvernement se réserve également la possibilité de réglementer la circulation des personnes et des véhicules. Les rassemblements sur la voie publique ne sont plus limités à 10 personnes maximum. Enfin, les hippodromes et les enceintes sportives comme les stades de foot peuvent de nouveau accueillir du public, mais dans la limite de 5000 spectateurs.
Le premier match de foot avec du public, donc, c'est dimanche. Le premier en France depuis 3 mois, donc. Match amical entre Le Havre et le Paris Saint-Germain qui devient du même coup un petit événement, Christophe Lécuyer.
Ce match amical, c'est en fait un vrai match de gala pour le club havrais qui évolue en Ligue 2. Une rencontre de prestige également pour les supporters normands qui se sont arrachés en quelques minutes les 5000 billets mis en vente sur Internet. Des supporters très impatients à l'idée de retrouver le stade Océane. Olivia De Tivel, ex-présidente du COP Ciel et Marine.
C'est le premier match avec du public en France. Donc oui, c'est un événement. Le stade, on n'y a pas mis les pieds, nous, depuis début mars. Donc en effet, oui, ça manque de revenir au stade Océane et de supporter son équipe. On est bien content que cet événement, ce premier match en France, se passe au Havre.
Ce match est spécial à plus d'un titre. Public comme membres des clubs devront respecter des règles sanitaires bien précises. Pierre Ventier, le directeur général du Havre, a coordonné l'organisation.
Une pression qu'on se met qui est de bien réussir et de donner un bon exemple et de faire passer un bon message. Ça, c'est important pour le Havre et c'est important pour le football français, je crois. Après, c'est vrai que notamment à l'étranger, on sent une forme de curiosité. Ils ont arrêté de jouer, ils reprennent avec du monde avant tout le monde. Voilà.
Les dirigeants havrais ont conscience d'avoir une lourde responsabilité sur les épaules. Montrer qu'un club de football français est aujourd'hui capable d'organiser de nouveau un match en public dans le respect des mesures sanitaires.
Pas de public en revanche pour la phase finale de Ligue des Champions. Les matchs auront lieu à huis clos à Lisbonne du 12 au 23 août. Quart et demi-finale disputés sur un seul match. Le tirage au sort du tableau final a lieu ce midi. Enfin, les calendriers de la prochaine saison de Ligue 1 mais aussi de Ligue 2 ont été dévoilés. Marseille-Saint-Etienne, c'est l'affiche de la première journée le 22 août, à moins que ce ne soit Nîmes-Brest, première journée, donc le 22 août. Nantes-Nîmes, deuxième journée. Nîmes-Rennes, troisième journée. Lyon-Nîmes, c'est la quatrième journée. Bon, j'essaie de glisser quand même que Troyes recevra Le Havre le 22 août également en Ligue 2, Jean-Jacques, et surtout...
Supporter de Troyes.
Surtout, oui. On parlera, je l'espère encore, vous et moi, de Troyes et de Nîmes, des Crocos et de l'Estac.
Ben, bien sûr, évidemment qu'on va en parler. Nous sommes supporters, et vous et moi, de ces deux clubs, Troyes, l'Estac et Nîmes Olympique.
Les courses.
Il est 7h38, comment ?
Les courses.
Ah oui, il y a les courses, j'avais oublié les courses. Vraiment.
Cabourg, 20h15, favorite numéro 1, Caïd de Laprelle, outsider numéro 9, Dimo Docagne.
Et puisqu'on parle de sport...
Oui.
Un invité, Jean-Jacques.
Ah bon ?
Un certain François est avec nous.
François, j'ai une idée.
Est-ce qu'il est là, François ? Bonjour, François.
Bonjour, les amis.
Bonjour François Pesanti. Bonjour, François. Ça va ?
Salut, Jean-Jacques.
Tu vas bien, François ? Ça me fait plaisir de t'avoir. Non, pas pour parler de... Parce que François est nîmois. Hein. Je voudrais quand même le rappeler. Non,
je
pas pour parler de sport.
Je suis à Nîmes.
Tu animes ? Ah bon,
oui.
Il fait bon ?
très beau, magnifique.
Magnifique, ouais. François, ça me fait plaisir que tu sois avec nous ce matin.
Bah, ça me fait plaisir aussi parce que je réfléchissais hier au fait que tu es la seule personne avec laquelle j'ai partagé mes 30 ans de carrière, d'abord à RTL et ensuite évidemment à RMC. Et je me souviens des premières années quand j'étais jeune journaliste où passer un papier dans ton 8h ou dans ton 13h était un exploit. Et puis se retrouver ensuite à RMC, bon, ça rappelle beaucoup de souvenirs évidemment.
Évidemment, c'est vrai François, tu es ému, moi aussi. On a partagé RTL, on a partagé RMC. François Pesanti qui a dirigé de main de maître, je dois le dire, tout le sport ici à RMC et il a fait d'RMC la première radio sport de France. C'est François qui a monté tout cela, qui a réussi cet exploit-là, il faut le dire. François Pesanti, on voit des images là, je vois des images de personnalités politiques qui sont venues à mon micro. Mais
on parle de toi, Jean-Jacques, ce matin surtout. Et moi, je voulais juste partager avec tous nos auditeurs une anecdote et une remarque. L'anecdote, c'est juin 2001. On se retrouve par hasard, d'ailleurs, dans la rédaction de RMC qui était à Monaco à l'époque. Et tu me dis, je suis content que tu nous aies rejoint. On va gagner. Et tu avais raison. On a gagné. RMC a été le plus grand succès des 20 dernières années et te le dois beaucoup. Parce que, je te l'ai pas souvent dit, mais moi je suis admiratif de la manière dont tu as porté cette matinale avec une constance, une énergie, un professionnalisme incroyable, mais surtout de la manière dont tu as incarné les valeurs et le ton d'RMC. Tu es quelqu'un d'indépendant et d'une grande proximité avec les Français et ça résume complètement ce qu'est RMC aujourd'hui, donc merci Jean-Jacques d'avoir porté tout ça.
Ben François, merci et je descends. Si tu es à Nîmes, si tu es dans le coin, dans les Cévennes, à Nîmes, et puis on sera dans les tribunes des Costières hein, ensemble, François. Et on dînera ensemble après le match, comme j'aime tant. Après un bon match de football, gagnant ou perdant, gagné ou perdu, peu importe, on va dîner ensemble après. Et ça, c'est vraiment très agréable.
Avec grand plaisir. Je t'attends.
Ben merci beaucoup. Merci François. François Pesanti, un grand patron des sports. Il est 7h41. On va faire un peu de pub et on se retrouve. Ça me fait plaisir. À tout de suite.
RMC. RMC,
6h-9h. Bourdin direct. Allez, il est 7h46 déjà. Ça passe vite le temps. Thierry est là. Thierry, bonjour Thierry.
Bonjour Jean-Jacques. Comment allez-vous?
Ça va Thierry.
Vous avez le cœur serré, hein. Oui. On l'entend depuis quelques heures.
Ben oui, j'ai le cœur serré parce que c'est ma dernière fois. Encore une fois, à 8h30, 9h, à partir de fin août, je suis là. Mais c'est la dernière fois que je dialogue avec les auditeurs.
Eh bien, j'ai une bonne pour vous.
Et c'est le dialogue, le mot dialogue. Dialogue, c'est la conversation, c'est l'art de la conversation. Et l'art de la conversation, c'est d'écouter l'autre, ce qu'il a à dire. Aussi.
Ouais. Nos larmes vont faire déborder le gardon.
Non,
car
bon,
vous êtes un Sévenol, un homme d'honneur, oui. Il n'a jamais rampé devant les hommes politiques.
Ça, jamais. Et ça, jamais. Et ça, c'est peut-être mes origines Sévenol. Je suis têtu. Alors là, têtu opiniâtre.
Au sens du terme. Aussi, au nom de tous les Alésiens de la Légion étrangère, d'Alès, de Nîmes, de Paris, du château de Montmoirac, puisqu'on est la plus vieille famille d'Alès et du Puy-en-Brun. Nous vous offrons le fanion du deuxième étranger de Nîmes, avec son crocodile de la 7e Légion romaine de Cléopâtre, la Septimanie, vous rappelez, ce crocodile qui était en deuil en 96, qui en était battu par Auxerre, avec Laurent Blanc et la Mouchie, ce qui était horrible pour nous. Et naturellement, comme nous sommes des Angalans à la Légion, votre épouse aura droit à l'éventail de la Légion étrangère de Nîmes, qui est le seul objet féminin qu'on trouve au foyer du régiment.
Merci Thierry.
Eh oui, bon. Je suis l'avenue Carnot, et croyez-moi, pour tous les Alésiens, aujourd'hui, c'est très très dur.
Merci Thierry, merci Alès, la ville où j'ai passé toute mon enfance, jusqu'à l'âge de 25 ans. Merci Thierry, merci quand je suis venu à Paris, et quand j'ai pris le train un dimanche soir, à Paris, à Alès, le train de la montagne, toute la nuit. Je me souviens, train de nuit, je suis arrivé à Paris et à Paris, j'avais rien, je connaissais pas, c'est la deuxième fois que j'arrivais à Paris, que je venais à Paris, et puis j'ai pris un petit hôtel, vraiment, il y avait les toilettes sur le palier, je me souviens, j'avais une toute petite chambre de rien du tout, et puis je suis poussé la porte d'RTL à l'époque, voilà. Claire Andrieux, Claire Andrieux. Non, mais c'est pas possible. Non, Claire Andrieux, mais c'est pas possible. Ça va, Claire?
Bonjour, Jean-Jacques.
Ça va, Claire?
Oui, écoutez, je voulais rétablir un peu d'équilibre dans votre matinale, parce que moi, j'ai pas de crocodile à vous offrir, et puis pas forcément que des compléments, hein, Jean-Jacques, pour votre dernière. Je voudrais rappeler aux auditeurs et à vous, quand même, hein, moi, j'étais reporter pendant longtemps, faut savoir quand même que vous nous avez terrorisés, hein, je parle au nom de presque toute une rédaction, quand on arrivait dans notre matinale avec notre petit papier, que vous tapez sur la table, comme ça, vous l'entendez, Jean-Jacques?
Oui, c'est vrai, non, mais c'est vrai, c'est vrai.
Et qu'il fallait tout refaire à 2 minutes de l'antenne, parce qu'on avait changé de... Enfin voilà, c'est des souvenirs avec vous pour avoir toujours ce qui vous correspondait le plus le matin et ce que vous sentiez le plus. Et puis aussi, enfin moi je me souviens, voilà, vous avez critiqué des ministres quand j'étais sur le terrain. Je me souviens de Michel Mercier, je crois que vous avez dit un illustre ministre de la Justice, je ne sais pas si vous vous en souvenez.
Oui.
En pleine matinale, vous disiez qu'il ne servait à rien ou je ne sais pas quoi. Enfin bref, on était sur le terrain et on s'en prenait plein la tête par les assistants et les conseillers. Enfin voilà, je voulais partager ça avec vous parce que c'est effectivement un homme libre jusqu'avec toutes vos équipes. Voilà, c'était des bons moments en tout cas.
Eh ben Claire, merci Claire, je t'embrasse.
Historique
Claire Andrieux, évidemment, qui a partagé tant de
police justice, les attentats de 2015,
les attentats Claire Andrieux sur RMC.
Et oui, mais
bien
c'était
sûr.
Voilà, c'était vraiment des belles années avec vous, et puis encore aujourd'hui, sans être à la rédaction, je suis toujours revenue vous écouter, voilà, pour l'équilibre que vous portez dans la matinale. J'écoutais un peu toutes les radios, mais c'est vrai que vous avez quand même, eh ben voilà, cet accompagnement, et puis c'est vrai que je vous admire d'avoir porté toutes ces matinées avec tous ces auditeurs, quoi. Vous comprenez les gens, et ça avait vraiment pas de prix. Merci beaucoup, Jean-Jacques. Voilà.
Merci Claire. Merci, je t'embrasse. Merci Claire, vraiment.
Au revoir.
Merci, au revoir. Vous avez entendu la voix de Claire André, ça m'a fait plaisir. Vous avez entendu la voix de Mathieu Rouault qui est venu nous rejoindre.
Bonjour,
ça va, Mathieu? Comment va votre fils, Mathieu?
Ça va très bien.
Il va bien?
Il se porte merveilleusement.
Il prend du poids un peu, ça va?
Il prend du poids à l'écoute d'RMC.
À l'écoute
de Jean-Jacques Bourdin.
Bon,
j'ai le bonheur d'ailleurs, hein, depuis 15 jours maintenant, de vous écouter en tant que simple auditeur. Alors, je ne voudrais pas voler la parole aux auditeurs, mais... Je savais pas trop quoi vous dire ce matin, c'est difficile. Et puis j'ai écouté à 6h tous les anciens qu'on travaillait avec vous. Marie Boule, on en avait parlé, je la connais pas, Marie Boule, hein.
Qui est au Canada maintenant.
Qui est au Canada.
Journaliste au Canada.
Et elle a dit une chose formidable, elle a dit Jean-Jacques Bourdin a changé ma vie, je suis devenu journaliste grâce à Jean-Jacques Bourdin, sans école de journalisme.
Non mais
et ça a résonné en moi vraiment parce que moi j'ai fait une école, je suis arrivé on considérait comme journaliste, mais je savais pas pourquoi j'étais journaliste. Mmh. Et puis avec vous, j'ai compris, parce qu'on partage des valeurs, tout simplement. Le journalisme, ce sont des valeurs. Je crois qu'on en partage 4 tous les deux. Vous disiez hier estime, vous disiez hier loyauté, il n'y a pas besoin d'expliquer. J'en rajoute 2 peut-être. L'écoute, parce qu'on dit souvent Jean-Jacques Bourdin, il coupe la parole, etc. Non, vous écoutez, vous savez vous taire, vous savez donner la parole au silence aussi. Et puis la pudeur. Voilà. Merci Jean-Jacques.
Eh ben merci Mathieu. Merci, c'est vrai. C'est vrai que ce métier est un métier qui est en danger aussi, hein. Qui est en danger aussi parce que pourquoi? Parce qu'on confond un peu tout en ce moment. Absolument tout. On a les réseaux sociaux, on a les images, on zappe d'un sujet à l'autre. En écoutant les auditeurs, ça nous remet les pieds sur terre. Et on en a besoin, nous journalistes, d'avoir les pieds sur terre. On a besoin de rester lucide, de rester libre, de rester indépendant. Tiens, Nicolas Poincaré, c'est l'heure de la chronique de Nicolas. Expliquez-nous, Nicolas, qu'est-ce que vous voulez nous expliquer ce matin? Je m'attends au pire, là, non? Au meilleur.
Vous pouvez.
Au meilleur avec Nicolas. Je peux?
Je vais essayer de vous expliquer quelle est la consécration par un homme de radio. Il y en a très peu qui l'ont eu. La consécration absolue, c'est d'avoir sa marionnette au Guignol, à la grande époque de Canal+. Et vous l'avez eu. Les Guignols, donc, vous ont caricaturé avec cette marionnette qui disait « Répondez, les Français veulent savoir ». C'était bon. Vous l'avez vraiment dit, cette phrase,
une fois? Oui,
bon,
les Français veulent
Il y a même Astérix a même fait une fois une page avec écrit répondez, les Gaulois veulent savoir. Je sais pas si on le voit. Voilà, on le voit. Et alors donc il y avait ce côté répondez aux hommes politiques, et puis surtout ils ont mis en scène cette relation particulière que vous avez avec les auditeurs. On va écouter un extrait. Donc on est à Marseille, on a un auditeur avec l'accent et vous en face de lui, on écoute.
Allô.
l'occasion de la sortie de Taxi 5, je reçois Gérald, chauffeur de taxi à Marseille.
Ouais, Jean-Jacques, te rencontrer, c'est un truc de fada, hein. Ah, je suis presque aussi ému que quand l'OM a battu le PSG pour la dernière fois en 1900. Bon, bref. En tout cas, ça remonte, hein. Il y avait encore Guillux à la télé et on payait en francs à l'époque, c'est dire.
Ah, le franc français. Le bon vieux temps, Gérald, hein. Tout était moins cher. Le pain au chocolat à 3 francs, le paquet de cigarettes à 5 francs, et les petites formes des goudes aussi, pour les moins chères. Oui, oui, Gérald, oui. Le bon vieux temps, je vous dis.
Ouais. Voilà, alors ça vous faisait rire, oui. Et je vois que ça vous fait encore rire. Oui. On met en scène donc l'auditeur supposé d'RMC qui est un peu facho, un peu raciste, et puis vous un peu gêné en face, mais en même temps un peu démago avec l'auditeur. Bon, enfin, bref, Jean-Jacques Bourdin. Alors ça vous faisait rire sur Canal+, mais ça vous a pas du tout fait rire quand Nicolas Canteloup a fait exactement le même registre sur Europe 1 avec son René, le chauffeur de taxi un peu raciste. Je sais pas pourquoi ça vous est paré. Alors je me suis demandé si ce matin on pouvait pas essayer de vous réconcilier avec Nicolas Canteloup. Un jour vous avez dit j'ai envie de lui casser la gueule tellement ça vous énervait. Moi je me suis dit qu'on pouvait l'appeler. Bonjour Nicolas Canteloup.
Bonjour Monsieur Bourdin, bonjour Nicolas.
Alors,
bonjour Nicolas.
C'est peut-être le moment de vous réconcilier.
Non, mais j'ai oublié depuis bien longtemps hein, ce coup de colère, Nicolas. Mais qu'est-ce qui, Nicolas ? On se tutoie, Nicolas ?
Je vous en prie, avec plaisir.
Mais qu'est-ce qui vous a donné l'idée de René ?
Ben, d'abord, Jean-Jacques, vous êtes une figure de, j'ai du mal à vous tutoyer parce que j'ai beaucoup de respect au-delà des apparences pour votre travail et votre parcours. Et vous êtes une figure de la radio et donc c'est un passage obligé pour moi d'imiter quelqu'un comme vous. Alors, votre particularité, c'est que pour moi, vous êtes au-delà de l'animateur et du leader d'une matinale, vous êtes un acteur parce que dès que vous ouvrez la bouche, il se passe quelque chose. Vous incarnez quelque chose. Et là, on l'a écouté tout à l'heure, là, quand vous avez parlé de votre départ d'Alès, vous créez le suspense. Vous dites, j'ai pris le train, je suis allé à l'hôtel, et dans l'hôtel, il y avait une chambre, et dans la chambre, il y avait une porte. C'est lui Hitchcock qui nous crée le suspense, avec rien. Vous ne racontez rien, il se passe un truc. Donc, voilà, et on essaie de trouver des angles comme ça, parfois des angles de mauvaise foi, quand on... quand on nous a fait passer pour quelqu'un qui parfois prenait l'antenne au débotté au dernier moment, on a l'impression parfois que même si vous n'avez pas travaillé un sujet, que vous êtes polyvalent et que vous pouvez rebondir sur tout. Pour moi, vous êtes homme du rebond, c'est-à-dire que même si vous maîtrisez pas un sujet, vous êtes arrivé parce qu'il y a une crevaison, une panne de réveil à 6h-5, vous prenez l'antenne, vous avez votre collaboratrice qui parle du taux directeur de la Banque Centrale Européenne qui a impacté la bourse de Tokyo, vous découvrez, vous faites, eh oui, la bourse de Tokyo est impactée. Vous reprenez la dernière phrase et on a l'impression que vous maîtrisez un bloc le sujet, vous êtes bossé depuis 3h du matin, quoi. Et voilà.
Mais Nicolas, merci, vous êtes c'est bien vu.
Un élégant escroc, parfois.
Nicolas, c'est bien vu. C'est bien vu, hein. C'est vrai que ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé de parler de sujets que je ne maîtrisais pas. Je ferai juste une petite précision. C'est que, par exemple, l'interview politique de 8h30, elle est préparée. Et celle-là, elle est préparée avec précision, je l'espère, pertinence la veille pendant 2h30 à 3h. Mais le reste, vous avez raison, Nicolas, sur la radio, le matin, il m'est arrivé de parler de sujets sans les connaître.
Bel hommage, en tout cas, hein, de Nicolas.
Oui, bel hommage.
Et puis, je veux reconnaître l'élégance de M. Bourdin parce que il a eu ce courroux et cette colère et sa partie de la nature humaine et de son personnage.
Oui.
Et le lendemain, parce qu'on est des mauvais garçons, on en a remis une couche et il a eu l'élégance de dire ce matin, Canteloup m'a fait rire. Et à partir de là, tout était pardonné.
C'était vrai. En plus, c'était vrai, Nicolas. Merci.
C'est gentil.
Merci, Nicolas.
Avec plaisir.
C'était bien de se réconcilier avant la dernière. Bravo. On peut rappeler aussi que les Guignols, vous avez nommé président de l'Union française des journalistes qui posent des questions démagos de beaucoup trop près. L'UFJPPQBDTP. Voilà.
Et puis, je voudrais remercier aussi Plantu qui m'a envoyé un petit petit dessin ce matin on va je pense qu'on va le mettre à l'antenne derrière moi si on arrive à le retrouver. On l'a pas, on le mettra. Si on l'a, on l'a. C'est Plantu, je remercie Plantu spontanément. Il m'a envoyé par mail un petit dessin, voilà. Regardez et ça, voilà, bah c'est
magnifique.
C'est magnifique, ouais. Hein.
Merci Jean-Jacques Bourdin.
À bientôt à 8h30. Oui, à bientôt à 8h30, évidemment. Il est 7h58. Merci, merci d'être là, tous. Bon, j'en dis pas plus.
RMC.